Ça, c'est une bouteille qui m'a marqué de par sa complexité, son élégance et puis bah, à la fin, son prix, quoi.
Un vin
pour un pot de départ
que tu ne boiras jamais,
que tu aimerais boire avec Alessandro Del Piero.
Une bouteille
quand le PSG gagnera la Ligue des Champions,
pour accompagner ton laxa de crabe.
Un vin à amener sur une île déserte
qui t'a mis une claque récemment,
pour accorder à ton pigeon en croûte de café.
Une vie, un destin, des vins.
C'est divin du soir jusqu'au matin.
C'est divin.
Je suis Guillaume Galliot, je suis un chef étoilé à Hong Kong. L'année prochaine, je fêterai mes 20 ans en Asie déjà, donc ça commence à faire.
Un vin, une bouteille.
La première bouteille dont tu te souviens.
La première bouteille dont tu te souviens.
Les premières bouteilles que j'ai bues étant jeune, bah c'est, ça me marque, mais ça m'a pas marqué au point de me rappeler le millésime et tout, parce qu'on boit toujours des petites bouteilles quand on est très jeune. Après, là où les premières bouteilles qui commencent à me marquer, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans et c'était un Magnum de Romane Conti 71. Donc ça, c'était à Singapour. Ça faisait 2 mois que j'étais à Singapour. Et donc, c'était un menu Romane Conti. Et donc, c'était là la première fois de ma vie aussi que je goûtais les vins de la Romane Conti, dont ce Magnum de 71 qui m'a complètement bluffé, malgré mon âge non avancé, je veux dire. J'ai compris quand même ce que c'était qu'une cette dimension de vin.
Un vin, une bouteille.
Les premières bouteilles que tu as mises à la carte de ton restaurant.
Les premières bouteilles que tu as mises à la carte de ton restaurant.
Première bouteille que j'aimais bien d'ailleurs, enfin que j'aime toujours, c'était des Alain Chabanon, des vins comme ça du Languedoc. Il y avait des Josmeyer d'Alsace, des grands champagnes, il y avait toujours des beaux champagnes, des belles maisons représentées bien sûr. Après, il y avait beaucoup de bouteilles de Bordeaux, parce qu'on parle de ça, ouais, 2006 à 2008, 2010, tout ça, ça buvait beaucoup de Bordeaux à Pékin, hein. C'était très très Bordeaux. Maintenant, la tendance a totalement changé, et puis c'est très porté sur la Bourgogne, mais à l'époque, les gros flacons de Bordeaux, les Pétrus, tout ça, bon, on en voyait souvent passer quand même. Pékin, poste de chef à 25 ans. Pour beaucoup, ça va faire, voilà, c'est beaucoup trop jeune pour un chef à 25 ans. C'est vrai, c'est pas vrai. Je trouvais que techniquement, couper un poisson ou couper une viande, je savais le faire, ça allait pas. Si je continuais un autre poste de chef de partie ou de sous-chef, quelque part, je n'allais pas grandir. Et Pékin, ça m'a permis de me trouver. Donc, à 25 ans, première place de chef, il n'y a pas trop de médias, il n'y a pas trop de monde qui vous regarde, qui vous dérange. Et donc, ça vous permet de vous essayer, de vous trouver, tout simplement. Et donc, ça a été vraiment un petit tremplin très intéressant pour moi, Pékin.
Un vin, une bouteille.
Pour accompagner ton laxa de crabe.
Pour accompagner ton laxa de crabe.
Je l'ai créé à Macao, ouais, c'est un plat emblématique singapourien, hein, le laxa. Donc c'est Malaisie, Singapour, on va dire sud-est asiatique. C'est assez épicé, il y a pas mal d'ingrédients qui rentrent dans la recette, qui marchent très bien sur les blancs. Des blancs d'Alsace, des blancs allemands aussi, des très bons Riesling allemands, ça marche super bien dessus. Des vins de chez moi, hein, de la Loire, marchent très bien. Il y a des Vouvray qui vont très bien marcher dessus, avec un petit peu plus de caractère, légèrement acide, ça marche super bien.
Un vin, une bouteille.
Pour le mariage de Marco Verratti.
Pour le mariage de Marco Verratti.
Ah bah, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu de Sassicaia aussi, très bon Sassicaia. Moi, j'avais fait mon plat j'avais fait le homard en laksa. Et puis une petite gelée de crabe, crabe caviar, qui était très bon. Gelée de crabe caviar. Ça marchait bien sur le champagne, voilà. C'était belle époque. Il y avait du belle époque en champagne. Sassicaia sur le rouge. Le blanc, il me semble que c'est un chassagne de chez. Je me rappelle plus du blanc. 2/3, c'est pas mal. Le jour du mariage, il y avait aussi Julien Royer de Odette qui cuisinait, qui est un super cuisinier de Singapour. Il y avait Morocola Greco à Mirazur, qui est un très très grand chef aussi. Et donc voilà, donc c'était très bon enfant. Hein. Il y avait le pâtissier du Crillon qui est vraiment talentueux. Donc non, c'était vraiment une belle association de chefs. Je trouvais que c'était une très bonne réunion, on va dire, avec des bonnes choses à boire.
Un vin, une bouteille.
Après un match du PSG au Parc des Princes.
Après un match du PSG au Parc des Princes.
une pinte, une merguez frite. Mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est avant le match, souvent, c'est ça. Parce que dans l'enceinte, c'est petit four, si vous êtes dans les bonnes loges, mais sinon, sinon, faut ramener ses M&M's, quoi. Je suis fan depuis 92, moi. Ouais, à peu près 92. J'étais ouais, primaire quoi, l'époque 92, et puis bah, après je commençais à aller au parc vers 94, au parc 94, puis bah, après j'y allais plus souvent quand j'étais à Paris, à Maison Blanche, et bizarrement j'y allais de plus en plus quand j'habitais plus à Paris et même moins en France. Je faisais souvent des allers-retours pour voir la Ligue des Champions, dont le mauvais Manchester United, Paris Saint-Germain, qui m'est resté encore en travers la gorge, on va dire. Celui-là a fait très très mal, très très mal. Mais ouais, grand fan. J'adore certains anciens joueurs, je suis resté en contact avec eux. Et puis voilà, même l'époque Djorkaeff, j'adorais. C'est un mec que j'adore, Djorkaeff. Et puis donc plutôt 20 moi. Plutôt 20 quand je regarde les matchs, parce que moi les matchs c'est souvent le samedi soir. Enfin les matchs qui passent le samedi après-midi ici chez moi c'est 11h ou minuit, donc c'est très bien pour avoir une belle bouteille de vin plutôt rouge après le boulot. Et puis ouais, là on part sur des j'aime beaucoup Grange des Pères aussi. C'est un de mes vins préférés. Voilà, on n'avait pas cette question, mais la Grange des Pères c'est pour moi c'est sûrement même mon vin préféré.
Un vin, une bouteille.
À ouvrir quand le PSG gagnera la Ligue des Champions.
À ouvrir quand le PSG gagnera la Ligue des Champions.
Ouais, j'essaierai de trouver le premier millésime de Grange des Pères qui est 92. Et ouais, je pense que j'ouvrirai ça. Après, j'ai d'autres bouteilles sous la main quand quelqu'un qui passerait bien. Hein. J'ai encore des Vouvray de 1919. Hein. J'ai un de mes grands-pères qui m'a offert une bouteille de 1919. J'en ai retrouvé encore une que j'ai racheté. Et justement, on avait trouvé deux. J'en avais mis une au restaurant. Et il y a 6 mois de ça, j'ai un client qui l'a commandé. Donc on a bu le 1919 avec lui. C'était tout simplement hallucinant. La couleur, le goût, on a rendez-vous avec l'histoire, quoi. 1919. Et puis il n'y avait pas un pet sur le vin. Il était encore. On a ouvert le bouchon, il s'est enlevé presque tout seul. Pas dans un très bon état, donc on s'est dit, bon, bah, le vin va être mort. Et il était remarquable, quoi. Il était remarquable. À 19, ouais, c'est fou. Ouais. Sur les Vouvray, il y a moyen de faire des très belles découvertes. Hein, chez Huette, tout ça, auprès dans les années 60, enfin 61. C'est les 47, 45, tout ça, c'est beau, très très beau.
Un vin, une bouteille.
Pour fêter la retraite, d'Ezekiel l'avait dit.
Pour fêter la retraite, d'Ezekiel l'avait dit.
Dernier match de Pocho. Et du coup, c'était le dernier match de Mascherano aussi. Matché, il rentrait en Argentine. Pocho, il pouvait refaire une autre saison d'ailleurs. Hein. Il avait une proposal, c'était je crois à l'Atalanta Bergame. Et puis il avait refusé, bah, de par les supporters napolitains, il ne pouvait pas accepter, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'es malade, je ne ferai jamais ça au peuple napolitain, j'avais trouvé ça grandiose. T'aurais pu refaire encore une année à taper le ballon et à te payer, t'as préféré ne plus être payé, prendre ta retraite pour faire plaisir à un peuple, ça c'est extraordinaire, je crois que c'est beau. Et on a fêté ouais, son dernier match, enfin l'après-match, dans sa chambre d'hôtel, avant de partir. Il repartait le lendemain direct, et puis moi aussi. Puis on a ouvert, ouais, un très beau champagne. C'était un vieux Dom Pérignon. Vieux Dom Pérignon 90, qui est très très bon. Et après, il y avait eu deux petites bouteilles de rouge, qui étaient belles aussi. Et il y avait un Porto de 1992, un Niport 92, qui était très joli aussi. Puis voilà, c'était pas fini trop tard, 5h du mat. C'était à Pékin, parce qu'il jouait, son club, c'était quand même à 1h30, 2h de Pékin. Hein. Donc tous les jours, il allait là-bas. Et le match, quand il jouait à Shanghai, généralement, après, il passait à Hong Kong. Puis on se voyait, on se faisait un ou deux restaurants à Hong Kong, puis il rentrait à Pékin. Parce que c'était un peu plus près. Mais...
Un vin, une bouteille.
Un de ses meilleurs amis aussi, c'est Enrico Bernardo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Enrico Bernardo, c'est quand même le meilleur sommelier du monde. Alors, il me semble que c'était 2000. Je crois que c'était 2004. 2004, meilleur sommelier du monde 2004 ou 2011, je sais plus. Et donc, c'est un des meilleurs amis de Pocho. Il lui fait aussi des. Il lui choisit des belles bouteilles pour sa cave privée à Pocho. Et donc, Enrico, il l'a bien éduqué aussi. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, Pocho. Donc, à chaque fois, il pose beaucoup de questions. Et quand on mange ensemble, il dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, et pourquoi ? Tu penses quel vin on devrait commander pour aller là-dessus ?» Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui comprend ce qu'il mange et ce qu'il boit. C'est pas les trucs qu'on entend parler de temps en temps. Ouais, il était en boîte, il boit n'importe quoi, c'est du pipeau, ça. C'est pas lui. C'est un mec qui sait boire et il boit bien, il boit bon. Et pas forcément en grande quantité, comme les gens veulent le dire. Ça, c'est du pipeau aussi. On choisit une ou deux belles bouteilles. Voilà, on est trois, ça suffit. Si on rouvre une autre bouteille, ça va pas être fini, quoi. C'est pas soit qualitatif, c'est pas de la quantité.
Un vin, une bouteille.
Que tu aimerais boire avec Alessandro Del Piero.
Que tu aimerais boire avec Alessandro Del Piero.
Je vais ouvrir un vin français quand même pour le faire chier. Mais oui, apparemment, il est propriétaire de restaurant, lui, sur les US. Hein. J'ai cru voir qu'il est du côté de Los Angeles. C'est plus des restaurants populaires, on va dire. Mais je pense qu'il sait manger aussi, ouais. Mais ouais, je lui ferai les classiques, mes plats classiques, dont le Laksa et tout. Mais vraiment que sur des vins français. Ou pourquoi pas, à la limite, le piéger sur un plat de pigeon et lui mettre un Barolo à l'aveugle pour voir s'il le retrouve ou s'il se dit « Oh, c'est un très bon vin français.
» Un vin, une bouteille.
Que tu buvais pendant le confinement.
Que tu buvais pendant le confinement.
Début du confinement, c'est marrant parce que maintenant les prix ont vachement augmenté aussi. Moi j'adore les vins de chez Reynaud, qui est à Château Rayas, mais il y a trois ans et demi, on trouvait des fonds salettes, Château des Tours, tout ça, pas trop cher du tout, quoi. Donc pendant le confinement, j'ai fait une cure de vins de chez Reynaud parce que c'est des vins que je trouve remarquables et que j'adore. Et donc ouais, pendant le confinement, on a ouvert beaucoup de bouteilles, surtout que nous à Hong Kong, on est resté en 2021, on a dû fermer 3 mois. Le soir. 2022, on a fermé 4 mois le soir. Donc tous les soirs, moi j'étais à la maison. Donc tous les soirs, on cuisine à la maison avec des collègues, avec mes sous-chefs, avec des amis. Et puis tous les soirs, on dégoupillait une ou deux bouteilles comme ça pour le plaisir. Mais bon, c'est vrai qu'à Hong Kong, on a accès à des belles références quand même. Le confinement, nous, on en a profité pour développer un tas de recettes. Hein. C'est là où on a été très créatifs pendant ces 3 ans, je trouve, plus créatifs que d'habitude, parce que des fois, on crée, puis après, on a des petits voyages au milieu. Donc là, au moins, on s'est focalisé sur notre cuisine. Le soir, même quand on était à la maison, quand on travaillait pas, enfin, le restaurant était fermé, on cuisinait à la maison, on ouvrait une petite bouteille, et puis ça parlait toujours cuisine. Tiens, qu'est-ce qu'on devrait travailler sur quoi cette semaine ? Tiens, commande-moi ça pour la semaine prochaine, on va retravailler là-dessus, on peut l'améliorer. Enfin, il y avait toujours des choses à voir et à revoir, quoi. Donc c'était le côté positif du confinement.
Un vin, une bouteille.
Pour fêter ta 3e étoile.
Pour fêter ta 3e étoile.
On a eu beaucoup de cadeaux, et dont un très beau cadeau. Et puis moi, je suis très fan de ce champagne, c'était le Krug, quoi. Ils nous ont envoyé un 3 litres de Krug édition 159. 159e édition, en 3 litres, c'était tout simplement extraordinaire. Un champagne d'exception. Et ça, c'était la classe, quoi. C'était vraiment... C'est pas que pour le chef. Ils savent que c'est une 3e étoile, c'est tout en équipe. On l'a bu tous ensemble, avec l'équipe, quoi. Bon, déjà, ouais, une consécration professionnellement parlant. On arrive à une catégorie... la plus grande catégorie, donc déjà pour le client, déjà c'est un autre gage de qualité, c'est tout le travail qu'on a fait toutes ces années pour arriver là, c'est récompensé, et puis c'est aussi un rêve de gamin. À 19 ans, quand j'étais chez les Pourcelles, je voyais ça, je me dis waouh, c'est vraiment dans ce milieu-là que je veux être, et puis bon bah voilà, à peu près 20 ans après, j'y suis arrivé quoi, un peu moins de 20 ans, ouais, en 18 ans.
Un vin, une bouteille.
Pour accompagner les tomates de ta mère.
Pour accompagner les tomates de ta mère.
Je voulais depuis longtemps faire découvrir le terroir, mon terroir à moi, là où je travaille. Et donc, je travaille à Hong Kong. Donc, je voulais vraiment leur faire découvrir ce qu'on pouvait faire, mais le plus près de chez moi, quoi. Donc, j'ai les pigeons de Rakan, c'est la maison Bellor qui me prépare ça, et me les envoie. Et ça a démarré comme ça. Le gars, il m'envoyait 4-5 tomates dans les cajots de pigeons. Pour moi, pour ma consommation personnelle, jusqu'au moment où je lui ai dit « Mais il n'y a pas un système pour me les envoyer à moi et tout, directement, mais en cajot, quoi. » Bien sûr, ouais. Tu dis à ta mère de m'envoyer les cajots et puis On prépare ça, puis comme ça, t'as tes tomates pour le restaurant. Puis bon, on se retrouve avec 30 kilos de tomates par semaine pendant la saison de la tomate. Donc ça dure de fin mi-juillet, fin juillet, jusqu'à fin septembre. Ça dure deux mois et demi. Ça peut être casse-gueule aussi, la tomate. Faut toujours faire attention, mais... On l'a essayé une fois sur un vieux Vouvray, c'était marrant. Tout dépend de la recette, en fait. S'il y a du crémeux, s'il y a de la richesse, si on va justement partir sur des petites gelées avec du caviar, des choses comme ça. Là, tout va changer. Ça peut partir du champagne, ça se marie super bien. Hein. Moi, j'avais fait une recette pour une maison de champagne avec la tomate. Ça peut marcher sur pas mal de références.
Un vin, une bouteille.
Pour un accord mets-vins réussi.
Pour un accord mets-vins réussi.
Par exemple, on va prendre une chose toute simple. Si vous faites un plat de foie gras, par exemple, bah vous allez essayer de trouver un petit peu d'acidité dans un vin pour vraiment couper le gras. Tout ce travail, on a fait même des plats de homard pour aller sur des vins rouges. Hein. Justement, j'avais fait un dîner 100% en Romanée Conti où je devais associer pas que de la viande, quoi. Et donc, on était parti sur des sauces pour aller sur un homard, c'était un Latache 2007. Et donc, c'était un gros travail de fond avec des réductions de vinaigre, un ajout de fruits frais à la fin mixés, voir s'il n'y avait pas trop d'acidité, de la sucrosité, tout ça, pour balancer avec le vin, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur les accords. On n'arrive pas sur un accord mets et vins où on va mettre le plat et puis le sommelier, tiens, vas-y, trouve-moi un vin vite fait. Non, c'est pas de l'à peu près, quoi. Faut que ce soit vraiment, faut bien que ce soit calé, enfin du moins au restaurant, quoi. À la maison, on est à la maison, on peut faire de l'à peu près. Tiens, on va faire ça. J'ai un gigot. Oh, bah tiens, vas-y, prends un petit vin du Languedoc, enfin un petit côte du Rhône, oh, une côte de bœuf, allez, un côte du Rhône. Ou... Dans la 3 étoiles, on peut pas faire ça. On travaille tous les plats, on travaille toutes les associations et tout ce qu'on présente, ça a été pété et répété, quoi.
Un vin, une bouteille.
Pour faire plaisir à un client.
Pour faire plaisir à un client.
À Hong Kong, on a la chance d'avoir une très belle carte des vins, mais aussi on a de la chance, énormément de chance, d'avoir des clients qui ont des collections de vins qu'on ne touche même plus en France. On va pas se mentir. Ils ouvrent des bouteilles, c'est impossible de les trouver ici, des vieux jaillets, des vieilles choses comme ça. On les ouvre, on goûte. Je dis tout de suite au sommelier, parce qu'ils ont le droit d'amener une bouteille par table. Donc ils consomment chez nous, mais ils peuvent ramener une bouteille. Et souvent, les collectionneurs, ils veulent montrer qu'ils ont une très belle collection de vins, quoi. Donc quand ils ramènent une belle quille, ils me font goûter. Je fais, oh là, voilà. Dis-lui que le menu dégustation, on va l'adapter. Et on va adapter son plat pour aller sur son jaillet, parce que là, son jaillet, il lui faut un pigeon. Faut pas qu'on aille sur un bœuf. On va partir sur un beau pigeon, bien saignant, bien. Voilà. Donc on est là pour s'adapter aussi au client et à ce qu'il a commandé en vin. Ouais, j'allais là la semaine dernière, là, on a fait Romanée Conti 57 et un Musigny chez le roi en 2011. C'était absolument magnifique et puis voilà, justement on est parti sur un pigeon, ouais. Pigeon un peu un fruit écrasé. C'était génial.
Un vin, une bouteille.
Pour accorder ton pigeon en croûte de café.
Pour accorder à ton pigeon en croûte de café.
Il y a pas mal d'associations à faire. Il y a une association qu'on a fait, vu que c'est un vin qui est riche, on peut pas en servir de trop. Mais c'est un vin de chez Toro Albala, le cépage chez Pedro Jiménez. Donc c'est un vin espagnol. Bon, c'est très sirupeux, quoi, donc il en faut très peu dans le verre. Mais ça marche super bien sur le café, sur un gibier, ça peut être très drôle, une soupe de lièvre ou des choses comme ça. On a plusieurs préparations de café, donc dans la sauce, dans la croûte et puis dans la marinade. Enfin, on va faire mariner le pigeon 24 heures. Et après, la croûte en elle-même, il va y avoir du café moulu, du café espresso pour faire la pâte. Après, on va faire de l'espresso pour faire la sauce. Avec de l'infusion de grains de café frais aussi, enfin concassés. Donc là, c'est le café sous toutes ses formes, quoi. C'est très intéressant aussi.
Un vin, une bouteille.
Pour réussir un barbecue entre potes.
Pour réussir un barbecue entre potes.
Barbecue, bah, j'aime beaucoup moi les vins de chez moi. Enfin les Saumur, bon bien sûr c'est pareil, ça a un peu augmenté en prix ces derniers temps. Les vins de chez Clos-Rougeard, j'aime bien moi des Cabernet Franc, des choses comme ça. Et puis les Côtes-du-Rhône. J'adore les Côtes-du-Rhône sur les barbecues. Côte de bœuf, un bon Côte-du-Rhône. Je suis plus sud, plutôt sud du Rhône. Mais après, bon, voilà, s'il y a un bon cornasse, Il y passe quand même.
Un vin, une bouteille.
Pour réussir un accord autour du champagne.
Pour réussir un accord autour du champagne.
Ouais, pomme de terre, caviar, sauce champagne, ça, bah voilà, sur un grand champagne, justement, des vieux Krug. Hein. Sur un Krug 98, on l'a fait, c'était remarquable, complètement sur l'élégance. J'aime beaucoup les champagnes de chez Cellos aussi, hein. C'est très très grand vin, des très grandes bouteilles. Bon, malheureusement, ça c'est pareil, ça a pris une claque sur les prix, donc ça devient un petit peu moins accessible. Enfin, du moins pour moi. Il y a des bons champagnes de vignerons, là, en ce moment. J'aime bien pas mal de monde, moi. Les Voigté Sorbet, Francis Boulard, très bon aussi. Charton Taillé aussi, il fait du super champagne. Charton Taillé, pour ceux qui ne connaissent pas, je leur recommande la cuvée Les Bars. Vraiment, c'est sur des salinités qui sont très, très bonnes. Très, très bon. Et c'est du 100% meunier. Donc, au début, c'était justement, quand on me l'a recommandé, j'avais dit, putain, 100% meunier, ça va me faire un peu bizarre. Et au contraire, c'était une révélation pour moi.
Un vin, une bouteille.
Qui t'a mis une claque récemment ?
Qui t'a mis une claque récemment ?
Je connais pas tous les vins, loin de là, mais alors, qu'est-ce que... Ah oui, 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 oui. Oui. Il y en a un qui m'a bluffé et on l'a fait à l'aveugle. On était deux à partir sur des très grands vins de Bourgogne, quoi. On s'est dit, oh, ça c'est Romanée Conti, ou ça comme ça. Et c'était un mec qui est dans le Muscadet. Il s'appelle Jérôme Bretodeau. Et la cuvée, c'était Stratera. Et c'était hallucinant. C'est une bouteille à la base qui est à 20-25 euros. Bon, maintenant, pareil, ça a augmenté. Parce que c'est une petite production. Mais alors, ce vigneron, attention, c'est un très, très, très grand vigneron. Et ça, c'est une bouteille qui m'a marqué de par sa complexité, son élégance. Et puis, à la fin, son prix, quoi. On s'est dit, ah, merde, putain, on partait sur des bouteilles au moins à 500-600 euros. On était là-dedans, quoi.
Un vin, une bouteille.
À boire chez toi en Touraine.
À boire chez toi en Touraine.
Chez moi en Touraine, moi j'ai une belle collection de Vouvray. J'ai la chance d'avoir des vieux Vouvray. Donc à chaque fois que je rentre, ma mère est de 52. C'est pas forcément un très grand millésime sur Vouvray, mais j'avais fait des réserves. J'avais acheté pas mal de caisses de Vouvray 52. Donc à chaque fois que je rentre, il y a une tradition. J'ouvre un 52, je le bois avec ma mère. Et son mari. Donc ça, c'est une tradition qui perdure depuis des années. Et puis, on ouvre des clos rougeards. J'ai encore quelques clos rougeards des années 90, donc ça va. Mais sinon, j'aime bien ouvrir de tout un peu. Je suis très Languedoc, très Côte-du-Rhône, très Bourgogne. Après, je suis moins fan de jeunes Bourgogne, quoi. J'aime bien, en général, les vieux vins. Même les vieux Bordeaux, j'aime bien les bons vieux Bordeaux.
Un vin, une bouteille.
À emporter sur une île déserte.
À emporter sur une île déserte.
Sur une île déserte, climat chaud ou climat chaud, plutôt chaud, j'essaierai de trouver un magnum déjà. Et je prendrai un vieux champagne. Justement, 81, moi je suis de 81, les millésimes de 81, c'est pas énorme, sauf en Champagne, ils ont fait des très beaux millésimes, mais donc le Krug 81, c'est une référence de collection 81. Ou une autre maison, mais un vieux champagne, ouais, j'adore les vieux champagnes, des vieux salons aussi, c'est remarquable. Dans les années 60, ils ont sorti deux millésimes, je crois que c'était 63 et 65. Mais c'est des très très grandes bouteilles, quoi. Plutôt des blancs de blanc.